Alors, Pierre-Yves, le premier ministre Philippe Couillard juge que son plan d'augmenter à 100 000 le nombre de voitures électriques à circuler au Québec d'ici 2020, deux ans, très ambitieux, mais réalisable, et il a promis aujourd'hui de bonifier de 1 000 $ le soutien pour l'achat d'un véhicule électrique d'ici 2020 et d'augmenter de 200 $ le soutien pour une borne à domicile avec une capacité de recharge plus facile, enfin plus rapide.
Économiquement, Paul, ça se tient pas. T'sais, d'un point de vue fiscal, une mesure fiscale, ça sert à changer le comportement de quelqu'un. Donc, mettre une subvention pour acheter une voiture électrique de 8 000 $ si le prix n'est pas encore accessible, on peut dire que ça joue dans la tête du consommateur. Mais regardons le différentiel. Déjà présentement, à 1,50 $ le litre, à moins de 100 000 km parcourus, on réussit à rentabiliser la voiture électrique par rapport à une voiture à essence équivalente d'entrée de gamme. Donc, on l'a déjà démontré. J'ai fait le test personnellement. On est allé le démontrer. C'est déjà rentable. Maintenant, si la personne qui vient pour dépenser 34 686 $ sur une voiture, tu lui dis, « Oh, ça te coûte plus 34 686, mais 33 686. » La personne, par mois, là, sur 5 ans, avec un taux de financement intégré dans le prix, il n'y a pas vraiment de différence majeure. Donc, ça change pas ta décision. Ça n'encourage personne. Tu ne fais que subventionner l'industrie automobile et qui plus est, tu les encourages à maintenir les prix plus élevés puisqu'il y a une subvention payée par l'État, donc le contribuable lui-même. Autre point, c'est que c'est une grande source de pollution, mais c'est intéressant, par exemple. Le véhicule électrique dépollue l'air, mais continue à polluer par sa fabrication, par ses piles. Et faut savoir que sur les prochaines années, le coût de fabrication va aller en baisse parce que comme on augmente la demande au niveau de la voiture électrique, ça coûte de moins en moins cher à fabriquer. Donc, naturellement, ça va devenir, en bon français, un no-brainer d'acheter une voiture électrique. Ouais. Pourquoi le gouvernement fait une annonce de 1 000 $, Paul?
Mais c'est pas le 1 000 $ qui m'a le plus frappé. Le problème de l'achat d'un véhicule électrique, c'est que tu dois avoir une borne de recharge efficace à la maison. Là, il met 200 $ de plus pour ta borne. Mais c'est du 240, Pierry. Oh, oui. Et 240, pour recharger, ça prend quand même de 6 à 8 heures au lieu de 11 à 16 heures. Ce que tu as besoin, si tu t'achètes un véhicule électrique, si tu veux être vraiment autonome et fonctionner, c'est une borne de 400 volts et plus qu'on appelle une borne de recharge à courant continu. Là, tu vas pouvoir recharger en 30 minutes, mettons 80 % ta batterie, mais ça coûte les yeux de la tête.
Oui, mais dehors, de nuit, Paul, tu mets ta voiture de nuit, là, 6 heures, même avec une courte nuit, il est rechargé.
Oui, mais
en plus, avec les compteurs intelligents.
Si ta conjointe a besoin d'accoucher à 1 heure du matin, puis tu as besoin de ton véhicule, puis
mais il est minimalement rechargé. Tu sais, il y a un taxi aussi, Paul. T'sais, il y a le minimum aussi qu'il faut se dire, c'est que avec les compteurs intelligents, on va même pouvoir éventuellement calculer que tu es en train de recharger ton véhicule. Et donc, Québec pourrait même dire, est-ce que tu recharges ton véhicule, on te donne un rabais ou on le charge plus cher? Si tu es à l'extérieur des périodes de pointe, on t'encourage. Donc, tout ça peut influencer aussi. Et la borne, Paul, parlons de la fraude de la borne ou du marketing de la borne. Là. Va acheter ta borne toi-même sur Internet. Fais venir un électricien pour poser un fil de 220 avec un disjoncteur.
Ça prend d'ailleurs un électricien certifié.
Ça coûte moins cher que ça, tu comprends? Il y a des gens qui se graissent la patte présentement, le gouvernement subventionne, donc on en profite. Mais crime, Paul, une prise, un disjoncteur, une machine, un breaker. C'est la même affaire.
Mais Pierre-Yves, je suis d'accord avec toi. J'aimerais ça que tous les véhicules soient électriques à 100% et qu'on ait tous une borne de recharge de 400 volts et plus dans la maison.
J'aimerais beaucoup ça, moi aussi, avoir 1 000 000 $ de revenus par année et me la couler douce à Hawaï.
Oui, ben oui, on aimerait tous avoir notre Tesla, mais on ne l'a pas.
Mais en somme, Paul, s'il n'y avait pas d'élection, il aurait pu dire « je maintiens le programme », mais ce n'est pas existant. Là, il dit « je le bonifie pour avoir des votes », mais en gros, juste le maintenir, c'est déjà quelque chose. Et ça ne changera pas le comportement de quelqu'un qui veut s'acheter un véhicule électrique. Donc, merci à l'élection pour faire ce genre de promesse qui ne sert à rien dans l'efficacité.
Là-dessus, tu as raison à 100%. En tout cas, je te donne raison à 100%.
T'es bien gentil.
Maintenant, Coca-Cola, ou ça fait plus drôle de dire Coke pourrait être associé au cannabis. Ça fait drôle de dire Coke et cannabis.
Surtout qu'on a une saisie de cocaïne, puis c'est de valeur parce qu'il y en manque sur le marché montréalais, en joke, là. Mais si on revient à notre nouvelle, c'est qu'il y a une rumeur, puis Coca-Cola en a parlé, c'est qu'on voudrait prendre des parts dans Aurora Cannabis, un peu comme Constellation Brands a pris dans Canopy Growth, pour développer une boisson, donc diversifier l'offre de boissons, qui serait identifiée au cannabis, mais on dit sans substance hallucinogène. Donc, il y aurait un lien avec le cannabis, mais bon, On va voir. Écoute, sur, ça fait évidemment bondir le titre de près de 18% aujourd'hui. Et sur un an, si vous avez du Aurora Cannabis, vous avez maintenant 272%. Parce que les investisseurs anticipent en bourse que l'investissement sera fait. Et je suis allé voir Coca-Cola, tu sais, les états financiers. Tu sais, Coca-Cola, sur les dernières années, c'est la croissance n'est plus comme elle était, tu sais. Mais au niveau de la rentabilité, on fait 1,4 milliard net sur 7,6 milliards de ventes chez Coca-Cola pour un trimestre. Et là, on a décidé, avec les institutions d'embouteillage, d'avoir des stratégies différentes et tout ça. Donc, le volume d'affaires change, mais au niveau de la marge, on augmente quand même. Mais Coca-Cola va aller chercher tous les types de boissons possibles. Et là, on se dit, bon, on va aller chercher même la boisson qui n'existe pas encore ici sur le marché, tu comprends? Alors, c'est très drôle.
Qui n'existe pas encore.
Oui, ça, j'ai fait exprès, Paul.
J'ai saisi le calembour. Et 10 ans après la crise financière, ça riait moins en septembre 2008, au même moment où on se voit là autour de la mi-septembre 2008.
Est-ce que Paul, tu as des souvenirs de cette période personnelle?
Absolument. Moi, ce qui m'a le plus frappé, je te dis ça en 10 secondes, c'est quand le titre de General Motors ne valait plus rien.
En effet, et en fait, c'est que General Motors, la dette était tellement grande sur le régime de retraite, tout ça, que la valeur, là, était presque rien. Et Paul, à cette époque-là, évidemment, les fameux PCA, on avait pris trop de risques, on mettait des hypothèques dans des produits financiers, et on a fait en sorte que des régimes de retraite, qu'il y a des gouvernements, il y a des caisses de retraite, qu'on achetait des PCA, hein, des produits avec adossés à des actifs, donc du papier commercial, et ce n'était pas triple A comme on le pensait, et finalement, les gens se sont mis à pas payer leur carte de crédit, pas payer leur maison, et l'investisseur s'est retrouvé sans liquidité au bout de compte. Et juste pour une courte période, parce que un an plus tard, on a quand même récupéré quelques donnes là-dedans jusqu'à 7 ans après. Donc, les PCA, c'était une crise de liquidité très rapide sur un an. On s'est refait en bourse si vous n'avez pas vendu vos placements. Et il y en a même qui ont fait de l'argent avec ça. Et les gens me disent, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est moins exposé que dans le temps? Donc, premièrement, nos banques canadiennes étaient déjà très bien capitalisées. Mais dans le reste du monde, avec les accords de Bâle, puis le Bâle 3, surtout qu'on veut intégrer des ratios de capital plus importants, qui fait en sorte que nos banques, si la valeur des placements baisse, ou si les compagnies perdent de l'argent dans leurs placements, ben, ils sont pas pris à liquider leurs actifs puis ne pas être capables de couvrir leurs passifs parce qu'ils ont du capital de cumuler. Et j'en parlais ce matin en vous disant que Desjardins est une institution financière systémique, c'est-à-dire qu'elle est tellement grosse qu'elle est identifiée au Canada comme « too big to fail ». Donc, chaque système a ses institutions financières qui sont trop grosses, qu'il faut surveiller, pas parce qu'elles sont pas rentables ou ni bien capitalisées, c'est qu'elles sont tellement importantes qu'on doit bien les accompagner et s'assurer qu'elles sont bien capitalisées. Et Desjardins, c'est vraiment pas un problème, Paul. On dépasse vraiment les ratios de capital exigés.
Intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Yves. À demain. Paul.